j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Nous vous disons merci, vous tous qui êtes branchés sur la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ces nouveaux numéros des paroles aux auditeurs. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko a été reçue la semaine dernière à Kampala par le chef de l'État ougandais. La question de l'activisme des rebelles ougandais ADF dans la région de Beni, dans l'est du pays, a été au centre de cette rencontre. Yoweri Kaguta Museveni, président ougandais, a plaidé pour que les églises de la sous-région de Grand Lac apportent beaucoup dans la lutte contre l'insécurité dans l'est du Congo. Et pensez-vous que l'implication des églises de la sous-région pourra-t-elle contribuer à mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays? Et quels sont les préalables pour y arriver? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Jean-Claude Siala. Marcel Ngombo est à la réalisation avec Tatima Poukou et Pierre Royal Amégis. C'est un réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Quel rôle les églises de la sous-région des Grands Lacs peuvent-elles jouer dans la résolution de la crise à l'est du pays et surtout la lutte contre l'insécurité? La question est au centre de notre échange d'un parole aux auditeurs, mais aussi sur la page Facebook de l'émission. Et en ligne, nous avons Étienne Vivien Kalonji, expert en résolution pacifique des conflits. Merci d'être avec nous en ligne, Étienne Vivien, bonjour.
Bonjour, mon estimé compatriote Pierrot et la Mèche.
Comment d'abord trouvez-vous la démarche de la CENCO de croiser le président ougandais pour évoquer cette question des ADF qui sont actifs à Beni et qui sont auteurs, bien sûr, de cette insécurité persistante?
Oui, cette démarche s'avère être très salutrice parce que la CENCO, en tant qu'une église, elle est ici appréciée dans sa juste valeur comme étant un groupe de pression. Parce que les associations sans but lucratif comme les églises ont pour rôle aussi certainement de favoriser l'émergence de l'attitude de la paix dans le pays et pourquoi pas dans la sous-région. Et c'est que la délégation de la CENCO a entrepris comme démarche. Nous saluons cela parce qu'il faut prendre langue avec l'Ouganda, étant donné que les rebelles en question sont identifiés comme étant les rebelles ougandaises. Mais pourquoi ces rebelles peuvent-ils demeurer au Congo et commencer à tuer les paisibles citoyens congolais? Quelles sont les motivations de leur action? Nous n'en savons pas toujours. Et si il faut que nous puissions être en intelligence avec un pays voisin, un pays sain comme la République sœur de l'Ouganda, c'est une bonne idée pour qu'ensemble nous puissions constituer une synergie d'efforts afin de pallier à cette éventualité. À cet art macabre qui consiste à zigouiller les Congolais à tout moment et sans pour autant connaître le mobile de la motivation qui pousse ces citoyens du monde à commettre des crimes odieux au Congo. Voilà pourquoi nous saluons et nous pensons que c'est une bonne démarche. Il doit sans doute s'élargir auprès des autres confessions religieuses pour travailler la population afin de développer une culture de paix, parce qu'il faut qu'on se le dise aussi qu'il y a certains de ces Congolais, comme l'entendons, qui aussi se masquent derrière ce label-là de ADF pour commettre les mêmes crimes. Et nous disons que la démarche des prêtres, les princes de l'Église, est vraiment très salutaire.
Et d'ailleurs, en réagissant à cela, le président ougandais a même plaidé pour que les églises de la région de Grand Lac s'impliquent dans cette question de crise. Alors, quel pourrait être le rôle que les églises, dans leur diversité, peuvent jouer dans la région de Grand Lac pour apporter leur contribution à la question de la paix à l'Est?
Normalement, déjà, l'église doit prendre ce rôle de commencer d'abord à véhiculer la culture de la paix. La culture de la paix dans le chef de la population qui côtoie au quotidien, au jour le jour. Parce que les prêtres qui sont des pasteurs, au travers de leurs homélies, ils ont l'avantage de côtoyer la population, leur inculquer cette culture de paix, cette culture qui consiste d'abord à reconnaître le caractère sacré de la vie de l'homme. quelle que soit la précarité de la vie que nous connaissons dans cet espace géographique de l'Afrique, qui est le Congo et ainsi que les autres pays d'Afrique. Et nous devons réaliser que point est l'objet de commencer à chercher comment ne pas attraper les minéraux et trouver ses intérêts en commettant des crimes auprès de ses semblables. Voilà pourquoi nous estimons, à notre humble avis, que la démarche entreprise par les prêtres consiste normalement à vulgariser la culture de la paix, à planifier les étapes de formation dans les différentes églises. Il ne s'agit même pas forcément des confessions de l'église catholique, mais toutes les confessions religieuses, parce qu'en Afrique, le phénomène église bat son plein. Mais ce qui est important pour nous ici, et c'est lui de permettre à ce que cette culture, cette formation qui doit se donner au travers des ateliers, que les gens apprennent à comprendre effectivement que nous devons d'abord privilégier la paix, hein, mettre l'homme au centre de toutes nos préoccupations, mais chercher de quelle manière nous pouvons éradiquer cette gangrène qui consiste à tuer l'être humain pour des mobiles purement retranchés aux intérêts mesquins. Voilà un peu ce que nous pensons pour que cette culture soit planifiée dans le cadre d'une formation, d'un séminaire fini, et que cette vulgarisation soit pour autant une affaire de toutes les confessions religieuses et non une chasse gardée seulement de l'Église catholique.
Et d'ailleurs, on a toujours évoqué l'importance du dialogue interreligieux, mais on sait aussi qu'il y a des extrémités, bien sûr, hein, des extrêmes, si on peut dire ainsi, en termes de collaboration entre le religion aujourd'hui. Alors, comment on peut arriver à mettre d'abord, peut-être d'une manière globale, l'ensemble des confessions religieuses dans la réflexion? Comment le pouvoir public peut-il les impliquer aujourd'hui dans cette dimension de la recherche de la paix à l'Est, par exemple?
Les pouvoirs publics sont appelés à travailler avec des organisations non gouvernementales. Un accord détaille aujourd'hui dans cette synergie qui consiste nécessairement à développer les marges et moyens de trouver des solutions à ceux de ces problèmes qui nous attraient. Voilà pourquoi nous sommes d'accord que les institutions de la République doivent s'impliquer pour soutenir cette démarche salutrice de prêtres de l'Église qui ont compris qu'il faut prendre langue avec cet État voisin pour qu'ensemble nous puissions réfléchir, comprendre que cette gangrène a quelle motivation. Quel est le mobile de leur action? Quelle est la motivation du mobile de leur action pour que, ensemble, nous sachions effectivement que les ADF revendiquent quoi? Ont-ils besoin d'un espace géographique, pour raison pour laquelle ils ont besoin de décimer les citoyens qui vivent dans cette partie de notre pays? Ou sont-ils ici motivés par les intérêts d'ordre économique parce que ces coins-là regorgent de minéraux? Nous pensons que l'État congolais ne doit plus ici faire ne doit plus demeurer dans le rôle d'observateur. En dépit des moyens militaires qu'ils peuvent allouer, ils doivent aussi nécessairement mettre la main à la pâte pour accompagner cette initiative des organisations non gouvernementales que sont les confessions religieuses, leur permettre assez de vulgariser grandement la culture de paix et aussi la culture de la défense active non violente. Il suffit que les personnes qui vivent dans ces coins-là puissent apprendre la résistance active non violente. Comment peut-être planifier ce que les citoyens de ces coins qui se font zigouiller par des armes blanches, apprendre par exemple les armes à chaud, qui peuvent le permettre dans un temps record de pouvoir d'abord se défendre, parce que la vie est sacrée. À partir du moment où l'intervention militaire coûte beaucoup, il y a lieu, au travers du sport, aïkido, taekwondo, vulgariser cette culture auprès de nos compatriotes pour que les jeunes gens qui se trouvent vers ces coins peuvent d'abord faire de l'autodéfense civile non violente, avant qu'ils soient zigouillés comme des brebis à l'abattoir.
Merci. On va revenir à vous. On vous garde en ligne, Denis. Vous êtes à Calémi. Merci de nous avoir rejoints dans Parole aux auditeurs. Bonjour, Denis.
Bonjour, Radio Capi. Merci de m'avoir conduit la parole par rapport à ce sujet si important.
On vous écoute, Denis.
Calémi, je voulais dire à l'ensemble que j'avais goûté aux arbres de cette guerre de l'Est pour avoir vécu à Calémé. Donc je connais la souffrance, je connais les préjudices que cette guerre, que cette insécurité porte à tous les habitants de l'Est. Et par rapport à la démarche menée par les évêques, l'intérêt qu'ils apportent à la question de la paix à l'Est est tellement salutaire. Mais la démarche, donc les pas qu'ils ont amorcés, moi, je les trouve un tout petit peu piégés. Piégés comment? La situation de l'Est n'implique pas seulement l'Ouganda. Alors, voir à Mousséveni me semble un pas un tout petit peu glissant. Est-ce qu'on ne pouvait pas, dans la mesure de bien faire, mener une démarche plus rationnelle en associant toutes les personnes impliquées dans cette situation, organiser un colloque pour en ressortir quelques résolutions plus pertinentes? Parce que les évêques, quand ils passent voir le président Mousséveni de l'Ouganda, c'est sur base de quelques marches prouvant que celle de lui est, par exemple, mieux placée pour apporter solution à la
situation. Alors, Denis, si vous avez suivi la démarche des évêques, rappelons quand même que le rebelle ADEF qui sont en train de commettre des crimes à Beni, ils sont ressortissants de l'Ouganda. Alors, c'est ainsi qu'ils l'ont plaidé pour que le président ougandais s'implique assez dans cette lutte. Et lui aussi a fait un plaidoyer pour que les églises de l'ensemble de la région des Grands Lacs puissent aussi travailler ensemble pour arriver à trouver des solutions efficaces.
C'est difficile aussi de nous dire que seul l'Ouganda est responsable de cette situation. On connaît cette pléiade de rébellions qui œuvrent à l'Est. Est-ce que les rebelles ne pouvaient pas faire mieux à répertorier toutes les groupes rebelles qui œuvrent dans l'Est du pays, les associer, les mettre autour des assises, savoir à qui est-ce qu'ils revendiquent pour un conflit? Il faut d'abord voir la cause. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils revendiquent? Qu'est-ce que l'autre se prendit? Vous les mettez ensemble et après on en tire des conclusions pour que tu sois satisfait de ce qu'ils ont fait. Alors, c'est là les effets pour venir produire ce qu'ils nous font. C'est pour moi, ça, je vois une élément, donc c'est Mousséveni ou bien l'Ouganda qui est là, donc, la tête du peloton par rapport au conflit qui est.
Alors pour vous, vous estimez que le fait d'avoir vu seulement le président ougandais, ça donne l'impression que c'est lui seul qui peut être impliqué dans la recherche de la solution. Merci beaucoup, Denis. Mais pour vous, les évêques auront, si c'était possible, réunir l'ensemble de ces groupes armés, savoir qu'est-ce que les gens revendiquent pour arriver vraiment à trouver la solution d'une manière plus efficace, mais pas se limiter seulement au seul président ougandais. Merci beaucoup, Denis. John, vous êtes à Isiro. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. John, vous êtes avec nous. Bonjour. Petit souci des lignes avec John. Avec John, on revient à vous, Étienne Vivien Kalonji. Vous avez suivi notre auditeur. Ça dit qu'ici, il y a d'abord la responsabilité du pouvoir public dans la sécurisation des personnes et de leurs biens en défendant les territoires nationaux. Mais il y a aussi le rôle de la société civile, les églises, par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans un forum assez grand, réunissant l'ensemble des églises de la région, on peut arriver quand même à proposer des pistes et des solutions pour résoudre cette question de sécurité? Si jamais les églises, dans leur diversité de Grands Lacs, parvenaient à se réunir dans un grand forum où ils peuvent sortir des idées pour accompagner le pouvoir public, est-ce que c'est possible, Étienne Vivien Kalonji?
C'est possible parce que le rôle que jouent les pasteurs dans nos différentes sociétés africaines est un rôle très très important. D'autant plus que les pasteurs côtoient les citoyens au quotidien et que la violence se prépare chaque fois dans le chef des individus. Lorsque déjà il y a un programme qui se réalise en amont pour préparer dans les esprits des personnes de ne pas recourir à la violence comme mode d'expression de ces desiderata, il y a lieu que ce travail de fond puisse se réaliser dans un cadre comme tel que vous l'entrevoyez là, une grande conférence regroupant plusieurs confessions religieuses, parce qu'au moins c'est eux qui sont à la base auprès de la population. Allez-y comprendre que si des individus, n'est-ce pas, s'organisent pour venir dessiner des êtres humains, et qu'il y a aussi d'autres personnes qui réfléchissent comment contrecarrer ces genres d'entreprises macabres, il y a lieu de croire qu'en long terme, il y aura des solutions efficaces autant que les solutions militaires peuvent aussi ici consolider la chose, mais à long terme, la paix se prépare dans les esprits des gens. Voilà pourquoi nous trouvons que cette démarche doit être soutenue par les institutions de notre pays, encourager les confessions religieuses qui ont pris l'initiative d'aller aussi interpeller nos voisins, parce qu'il s'agit de leurs rebelles qui ont pris refuge sur nos territoires, qui continuent à perpétrer des massacres sur nos compatriotes. Donc il y a lieu, ensemble, qu'on soit en intelligence avec eux, si nous sommes tous d'accord de vivre mieux dans cette partie du monde, pour que les gens, lorsqu'ils vivent quelque part, ils soient aussi sécurisés.
Donc nous saluons cette initiative et nous pensons que si cela pourrait se réaliser, c'est une manière de concrétiser et de matérialiser l'esprit de paix en long terme dans le chef des personnes. Parce que imaginez-vous que les jeunes gens désœuvrés peuvent aussi être séduits par cet effet contagion malicieux de suivre ou d'intégrer ces mouvements armés pour continuer à piller et tuer les paisibles citoyens, alors que la vie des hommes sur terre est sacrée. Voilà pourquoi nous pensons que notre gouvernement, les autorités de notre pays, doivent tout faire pour soutenir cette initiative lancée déjà par les princes de l'Église et associer aussi les autres confessions religieuses pour que la paix soit réellement préparée dans le chef des gens.
Alors, on va écouter Claude qui est à Kinshasa et Marie-Paul est à Kisangani. Claude, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, JR, bonjour.
On vous écoute, Claude.
Oui, concernant l'un des programmes de l'Est, comme je l'ai déjà mentionné déjà là, sur mon message, le problème de l'Est nécessite, oui, des confessions religieuses peuvent aussi intervenir par rapport à la situation de l'Est. Mais le problème de l'Est, c'est depuis 1994, lorsqu'il y avait génocide au Rwanda. Alors, il faut que le pays, que la RDC, avec le pays des rebelles, puisse négocier. Pourquoi pas de négocier? Nous, on avait déjà négocié les accords de San City, il y a des accords aussi que la RDC aussi a accordé quand même aux rebelles quand même de les écouter. Et pourquoi pas Kigali ne peuvent pas jamais écouter les FDLR? Pourquoi pas l'Ouganda ne peuvent pas et Kampala ne peuvent pas quand même négocier avec les ADF? C'est parce que ça, c'est manque de foi, manque quand même de confiance. Il faut que chaque pays écoute quand même ses ressortissants et de demander quelles sont des revendications. Parce que tout cela, c'est la RDC qui subit tout ça. C'est la RDC que les gens, et chaque jour, on tue que les gens chaque jour à l'Est. Alors, moi, je croyais que s'il n'y a pas de négociation entre les pays de rebelles, là, c'est vraiment des démarches inutiles parce que c'est 23 ans passés déjà et sans solution. Vous pensez que même si les confessions religieuses, ils vont intervenir par rapport à la situation, mais il n'y aura rien du tout qui va changer parce que ces rebelles-là, ils ont déjà dans la population, ils se connaissent, ils vivent ensemble, mais pendant la nuit, ils font de leurs activités, ils habitent ensemble et tout consomme. Mais si des pays des rebelles puissent négocier avec eux, okay, rentrer en paix. Voilà l'exemple que je peux vous donner encore. Lorsqu'il y avait les DDRR, les FDRR, alors ces rebelles-là, ils étaient encore cantonnés à Kisangani, Kanyabayonga et tout consort. Et c'est là qui ont été rapatriés au Rwanda. Alors ces gens-là n'étaient pas vraiment bien encadrés. Ces gens-là, il y a des gens qui souffrent là-dedans. Mais ces gens-là, ils sont en train maintenant de causer avec leurs frères restants que nous voilà et nous on souffre ici, nous on nous maltraite ici. Alors vous pouvez aussi retourner en brousse pour aller faire vos activités parce qu'ici il n'y a rien du tout. Mais s'il y avait des bons accueils, il y avait des bons encadrements, on les reçoit comme des frères et sœurs. Là, il y aura
la solution. Merci beaucoup, Claude. Vous estimez que, quelles que soient les initiatives des églises de la sous-région aujourd'hui, mais dès lors que le pays, par exemple l'Ouganda, qui n'accepte pas de dialoguer ou de discuter avec les ADF pour connaître le motif de leur revendication, le Rwanda, la même chose avec les FDLR, ça sera très difficile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que ces pays organisent des discussions avec ces groupes rebelles qui sont étrangers pour savoir les motifs de leurs revendications et procéder au processus de mobilisation, désarmement et réinsertion. C'est-à-dire qu'avoir un programme reçu, comme ça, ils peuvent avoir le courage de déposer les armes en RDC, de rentrer dans leur pays et d'être encadrés. Mais sinon, les initiatives des évêques peuvent aller plus loin. Mais dès lors que ces pays-là ne discutent pas en interne avec les groupes rebelles, ça sera très, très difficile. Merci beaucoup. Et Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, l'analyse sémantique de la plaidoirie du président Museveni sollicitant l'implication des sous-régions des Grands Lacs pour lutter contre l'activisme armé à l'est de la République démocratique du Congo révèle, monsieur le journaliste, trois explications. La première explication, c'est que l'activisme armé à l'est de la RDC est à la fois spirituel, économique et politique. Deuxième explication, c'est que les États membres des Grands Lacs et de la région des Grands Lacs ou de la sous-région des Grands Lacs ont failli à leur mission régalienne. Alors, troisième explication, c'est que la CPGL, la CIGR, toutes ces organisations sous-régionales ont failli et n'ont plus leur raison d'être, d'autant plus qu'il y a toujours l'activisme. Alors, monsieur le journaliste, c'est face à une grille d'électives pareille. De mon point de vue, je note plutôt que la CIS est la plus efficace pour mettre fin à l'activisme à la RDC doit être beaucoup plus envisagée dans l'approche que nous disons l'approche dessus eux. Qu'est dit l'approche dessus eux, monsieur le journaliste? C'est-à-dire, on doit faire l'interconnexion des États membres de la sous-région. On doit également faire l'interconnexion des églises, comme vient de le faire la preuve la CENCO. On doit également faire l'interconnexion des écoles. Et au-delà des écoles, on doit aussi faire l'interconnexion des entreprises, des ethnies et de l'environnement. C'est ça l'approche, c'est là la théorie dessus. Alors, si on arrive à faire ces genres d'interconnexion, je trouve que si aujourd'hui les États comme ils se sont montés faillis, mais si on utilise les écoles, c'est-à-dire commencer à sensibiliser que les écoles de tous les États membres de la sous-région de la CNG s'impliquent également dans cette histoire, je crois que cette communication va permettre beaucoup plus qu'on trouve des solutions. Et si aussi on applique les entreprises, parce que nous savons aujourd'hui les entreprises, lorsqu'ils se mettent ensemble, les patronats, les travailleurs, ils se mettent ensemble, ils se disent un peu, pour mettre fin à cet activisme, je crois qu'on peut aussi trouver des solutions. Et aussi les ethnies, nous savons que la RDC, les Rwanda, les autres pays ont toujours des membres qui ont peut-être des ethnies qui sont de part et d'autre. Mais si on met ensemble ces ethnies, je trouve qu'on peut trouver beaucoup plus de solutions. Et aussi l'environnement. On doit enseigner l'environnement que les pays membres de la sous-région, chacun ce qui les concerne, arrive à assainir son environnement. C'est avec ça qu'on peut vraiment espérer avoir quelque chose.
Voilà, mais là, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Marie-Paul, vous avez dit le fait qu'il y a cet activisme qui persiste, ça veut dire que c'est l'échec des stratégies mises en place par la CIRGL. Mais pour vous, il faut toute une connexion dans la sous-région, connexion des États, connexion des églises, connexion des écoles, connexion des entreprises, des ethnies. C'est-à-dire qu'il faut prendre cette dimension, la question, l'aborder dans une dimension globale, et ce qui peut permettre à ce que même le rôle que les églises peuvent jouer peut être aujourd'hui un bon rôle s'il y a cette interconnexion des églises au niveau de la sous-région. Merci beaucoup, Marie-Paul. Félicien Kalala, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Monsieur le journaliste, bonjour à votre invité, aussi bonjour à tous les étés de la radio Capi qui nous écoutent partout dans le monde.
On vous écoute, okay. Félicien.
Ouais. Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'accordez dans votre émission, dans les auditeurs. C'est tellement intéressant. Les problèmes de nos amis de l'activisme, des groupes armés à l'est de notre pays, puis particulièrement les ADF Nanou. Si nous avons bonne mémoire tous, il y a une fois que nous avons entendu que nos amis de l'ADF sont en coalition avec l'État islamique. Mais l'État islamique tire son origine de la religion que nous appelons ici, a des affinités. L'affinité avec l'islam, notamment la religion musulmane. Alors, l'invitation du président ougandais Yoweri Museveni aux confessions religieuses pour faire appel à la cessation de cet activisme est tellement importante. Puisque si les musulmans aujourd'hui appellent à l'apaisement ou à la cessation de l'activisme de ce groupe armé, nonobstant la lutte armée que nous sommes en train de mener ici à par la MONUSCO et aussi la RDC, tous les efforts que nous sommes en train de consentir, cela rendra la lutte multisectorielle de façon qu'on puisse éradiquer, puisque une fois que le groupe armé que les confessions religieuses aient lutté contre cela, tout en appelant à la cessation à l'ère militant ou soit à l'ère croyant, on peut dire, puisque il y a certaines personnes qui sont tellement cette vision-là, qui ont l'adhésion dans la religion musulmane et qui doivent une fois comprendre si leurs dirigeants ont appelé à ce que ce groupe, à ce que cet activisme puisse cesser. Voilà au moins ce que moi je pouvais un peu comprendre en cela. Et
merci,
puis,
merci beaucoup Félicien. Merci beaucoup. Vous avez aussi souhaité une implication de l'Église de l'islam, comme vous l'avez dit, des musulmans, parce qu'il y a toute cette information autour de ZADEF qui serait une branche de l'État islamique. Est-ce que ça peut apporter en plus dans la lutte? C'est pour cela même que notre invité a insisté sur le fait, et que comme notre ami Marie-Paul parlait de l'interconnexion religieuse, n'est-ce pas, dans la région, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont extrêmes, qui sont des extrémistes, et il y en a qui sont tolérants dans toutes les confessions religieuses, et quitte à savoir comment mettre les uns et les autres ensemble. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous allons revenir à notre invité d'un moment à l'autre pendant ce temps. Maître Serge, vous gardez la ligne, vous êtes à Kamina.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Parole aux auditeurs.
Alors, Étienne Vivienne Kalonji, vous avez suivi cette proposition de notre ami Marie-Paul de Kisangani sur l'interconnexion au niveau de la sous-région, interconnexion des églises, des confessions religieuses, des écoles, des ethnies, des entreprises. Il y a aussi notre ami Félicien Kalala qui revient aussi sur la question religieuse. Est-ce que au niveau de la CIRGL, parce que Marie-Paul le disait que c'est un échec, parce que les stratégies mises en place par la CIRGL n'ont pas permis de pouvoir résoudre cette question de l'insécurité, particulièrement à Béni. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait encore au-delà, au niveau de la CIRGL, pour arriver vraiment à cette proposition de l'interconnexion, Viviane Kalonji?
Oui, la proposition de l'interconnexion, comme vient de le présenter notre compatriote, bon, son pesant d'or, mais c'est un travail de fond, un travail qui nécessite beaucoup de moyens, et dont les perspectives de solutions sont envisagées ici à long terme. Mais il y a aussi un aspect très important que nous devons ici d'abord fixer les esprits de nos compatriotes, c'est que la partie est de notre République regorge beaucoup de minerais qui ici constituent un point où la plupart de nos voisins sont très intéressés. Et parce que les faits de notre passé récent prouvent en suffisance en comment est-ce que l'Ouganda et le Rwanda ont permis à ce que le régime de Mobutu soit vite déboulonné pour inscrire ainsi celui de l'AFDEL. Nous trouvons que depuis l'avènement de l'AFDEL, cette partie de l'Est de notre pays connaît réellement une activité assez croissante des groupes armés. À telle enseigne que nous ne savons pas ici nous situer. Est-ce que c'est une volonté éhontée de ces pays qui organise des groupes armés pour terroriser les populations de ces points afin de libérer les territoires, afin de justifier, comme certaines publications l'ont aussi affirmé sur les visées expansionnistes de nos compatriotes. Voilà pourquoi nous saluons la démarche du chef de l'État qui veut ici chercher à intégrer notre pays, n'est-ce pas, dans une
politique d'intégration sous-régionale. Pour que les minéraux que le Congo regorge ne soient pas seulement l'apanage des Congolais, mais que ce soient aussi des minéraux qui intéressent ce pays en favorisant l'émergence d'une intégration sous-régionale. Pour que les Ougandais et les Rwandais se réalisent qu'effectivement, avec la levée des barrières frontalières, ils peuvent aussi bénéficier des richesses qui se trouvent au Congo à long terme pour que nous puissions vivre dans cette partie du monde en paix. Mais cette question est éminemment politique pour que les institutions de notre pays puissent d'abord s'arroger leur devoir traditionnel qui consiste à sécuriser les territoires nationaux. Nous devons faire tous ensemble un grand travail avec les confessions religieuses d'harceler les oreilles de la classe politique congolaise, les décideurs de Sirkoa, pour mettre les moyens en jeu afin de défendre brillamment l'intégrité de notre territoire. Parce que les relations internationales sont caractérisées par le jeu d'intérêts. Si les Ougandais ont ces intérêts en montant des structures que nous appelons ADF, encore faut-il savoir, les ADF qui parlent anglais ont-ils déjà revendiqué un jour le mobile de leurs actions sur le terre congolaise? Ou ce sont peut-être des mercenaires qu'on a recrutés au niveau de Yémen, au niveau de la partie est de l'Afrique, pour venir perpétrer ce genre de terrorisme, afin ici de pouvoir matérialiser la balkanisation du Congo. Voilà pourquoi l'État congolais ne doit pas rester observant ou croire à la CIRGL. Il suffit d'abord de croire à notre capacité d'abord de sécuriser notre territoire. Et nous, peuple, avec l'intelligence des différentes confessions religieuses, nous devons nous constituer en groupe d'activistes civiques non violents pour harceler les oreilles des décideurs afin de prendre ces problèmes comme prioritaires, réformer notre armée, donner à notre armée les moyens de surcroît, extirper les mauvais éléments qui sont en intelligence avec les ennemis et suivre de près comment est-ce que les choses se réalisent là-bas pour sécuriser la population. Et ces choses, alors qu'elles s'accompagnent avec un travail de fond sur la question de la paix, sur la transformation du mental des citoyens d'Afrique, afin de comprendre que nous sommes frères et que nous devons ici lutter pour développer nos différents pays, que de lutter sur des actions illicites. Voilà pourquoi moi je vois que c'est vraiment un grand travail de fond que nous, citoyens du monde, devons tout faire.
Merci.
Pour revendiquer ce que l'autorité de l'État soit établie dans ces parties de l'Afrique.
Voilà, on vous garde en ligne, hein. On va revenir à vous parce que vous avez évoqué la question politique tout à l'heure. On aura un politique qui pourra aussi nous donner sa lecture de cette situation. En attendant, on écoute Maître Serge Kieta Kamina. Bonjour Serge.
Bonjour bien-aimé Pierrot, bonjour à tous les millions auditeurs de la radio Kapi qui nous écoutent à ce net moment.
On vous écoute Serge.
Oui, j'avais de l'inquiétude sur un point, puisque avec la confession la religieuse, ça ne peut pas aboutir. Ils n'ont ni armes, ni quoi, ni militaires pour peut-être poursuivre ça. Vous avez vu la réponse qu'a donnée Yoweri Museveni. Il a dit, bon, je vous encourage, en tout cas vous devez vous y atteler pour trouver solution. J'avais dit autrefois que c'est un problème où il fallait convoquer Kagame, Yoweri Museveni, même Kurunzinga. Ils savent. Et tous ces gens-là qui viennent inquiéter les familles à Beni, ils se rendent où? C'est toujours de ce côté-là. Comment ils peuvent entrer facilement? Ils sont détectés que ce sont les Ougandais, les Rwandais et les Burundais. En tout cas, je suis en train de regretter. Il y a aussi l'inquiétude sur l'offre de l'aide de l'autre côté-là. Ceux-là qui viennent en dehors des familles, ils les gardent dans leur maison, après avoir opéré, on tue les gens et on vous laisse quelque chose, ils s'en vont. Il fallait aussi peut-être recycler les chefs coutumiers de l'autre côté là, qu'ils parlent un même langage. Je crois que le gouvernement avait échoué depuis longtemps. Il y avait la démobilisation. Où en est-on jusque là? En tout cas, je crois qu'il faut être en communion peut-être pour trouver une solution par rapport à ça.
Merci beaucoup Serge. Et d'ailleurs, quand vous évoquez la question de complicité, cela veut dire qu'il faut une forte sensibilisation au niveau des pouvoirs coutumiers pour éviter que le fils locaux ne soit pas impliqué, il ne puisse pas collaborer avec des ADF, qu'il ne puisse pas les héberger, qu'il ne puisse pas vivre avec eux. Mais là aussi, il y a cette question de la démobilisation qui se pose aujourd'hui. Hein. Les anciens miliciens, quand ils ne sont pas encadrés, il y a un compatriote qui est revenu là-dessus, quand ils ne sont pas encadrés, ils ont tendance à rechuter, revenir encore dans la forêt. Merci beaucoup Serge. Mais pour vous, c'est difficile pour les confessions religieuses, ils n'ont ni armes, ni armée, ni militaires. Comment pourront-ils aujourd'hui jouer ces rôles? Alors nous avons un œil politique dans cette émission. Paulin Odiane, député national élu d'Isiro. Vous avez suivi notre
invité Étienne Vigène Kalonji qui est revenu tout à l'heure sur la question éminemment politique. Cela veut dire qu'il y a ce souci de voir la société civile, les églises être impliquées, mais il y a aussi l'aspect politique qui peut être pris en compte pour accompagner le travail que les confessions religieuses, soit la société civile, peut mener aujourd'hui pour la question de la paix à l'est du pays. Pauline Wodjane, bonjour.
Bonjour mon frère et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour m'avoir associé à cette émission. Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas suivi les autres intervenants parce que j'étais dans une séance de restitution à la base. Et néanmoins, je tiens aussi à féliciter l'Église catholique pour cette initiative. Vous savez très bien que l'Église joue un rôle important dans notre pays, parce que c'est l'Église qui est tout près de la population. Tout le monde est presque chrétien au Congo, même ceux qui ont pris les armes, ils sont également, d'une manière ou d'une autre, ils s'appellent des chrétiens. Mais si l'Église s'implique, c'est une solution qui me paraît tout à fait logique et importante. Et à part l'Église catholique, je préfère également que les autres églises, comme les églises protestantes puissent également se rejoindre plutôt l'Église catholique dans cette démarche, afin que ça puisse aider la région des Grands Lacs à endiguer ces conflits qui ne fait que perdurer. À part cela, il faudrait que cette démarche soit vraiment appuyée par la politique, parce que sans la politique, nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Le développement de l'Afrique nécessite qu'il y ait la paix. Or, pour le moment, il n'y a pas de développement parce qu'il n'y a pas de paix. Vous savez, à l'est du pays, pratiquement à Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, y compris d'autres parties de la République, comme le Haut-Uele également. Donc, la paix n'est pas au point. Alors, il faut que les églises s'implique et j'encourage les églises à s'impliquer davantage. Je demande au président de la République d'appuyer cet effort de l'Église catholique. Je demande aussi à l'armée, notre armée et les différents services de sécurité d'appuyer la société civile, d'appuyer l'Église catholique dans cette démarche pour que nous, les Congolais, nous et les autres frères de pays voisins, nous puissions comprendre que l'Afrique ne peut se développer que grâce à nous. Si nous voulons que nos pays puissent se développer, donc les pays vont se développer. Si nous ne voulons pas, en tout cas, désolé, nous allons demeurer dans cet état de pauvreté.
Alors, Pauline Wodjane. Oui, Pauline Wodjane, si vous avez suivi les auditeurs, il y en a qui sont revenus sur la question en interne, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ouganda, où ils estiment que le rôle de plaidoyer peut être aussi fait ou bien joué de l'autre côté pour permettre à ce que ces pays organisent des dialogues, parce que beaucoup de rappelons que ce soit les ADEF, que ce soit les autres groupes armés comme les FDLR, ils sont des groupes armés étrangers. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que dans ces pays ces autorités mettent en place des mécanismes de reddition, des mécanismes de démobilisation qui peuvent permettre à ce que leurs ressortissants qui causent le trouble ailleurs, l'insécurité, puissent se retourner dans leur pays et que leur voix soit écoutée et qu'ils s'installent par exemple dans un processus d'aide aujourd'hui?
Bon, je crois que je suis vraiment en difficulté de vous suivre. Ici à Issiro, donc nous avons des difficultés pour capter correctement les correspondants. Je n'ai pas bien suivi votre intervention.
Oui, l'intervention, j'étais en train d'évoquer la possibilité de la reddition de ces groupes armés et de le ramener dans leur pays et puis que leur pays s'organise par exemple à pouvoir le démobiliser, à pouvoir le réinsérer dans la société. Est-ce que on peut ouvrir les espaces dans ces pays d'origine de groupes armés étrangers par exemple aujourd'hui? Est-ce que c'est possible qu'on mène ces plaidoyers là?
Bon, je n'ai pas bien capté également. Je crois que vous avez parlé de groupes armés étrangers qui sont dans différents pays. Les rapatriements, ça ne peut se faire que si et seulement si il y a contact entre les différents chefs d'État. Et puis, si ces chefs d'État ont la bonne foi, parce que le problème, c'est aussi avoir la bonne foi, et parce qu'il y a des présidents, il y a des chefs d'État qui préfèrent que nous ayons la sécurité chez nous afin qu'ils pillent sérieusement nos richesses. Il faut qu'il y ait bonne foi de part et d'autre pour qu'on puisse procéder au rapatriement de forces négatives qui sont sur nos différents territoires respectifs. Et d'abord, en commençant par ce que l'Église a fait, nous disons que c'est la meilleure des solutions. Parce que l'Église est neutre. L'Église est pour que la population soit dans la paix. L'Église est pour qu'on sache chacun de nous prêcher l'Évangile pour que chaque citoyen ou chaque chrétien puisse se convertir dans sa voie qui ne paraît pas une voie paisible. Donc nous disons que l'Église catholique et les églises protestantes peuvent jouer un rôle important pour encourager ces forces négatives à rentrer dans leur pays donc respectif. En tout cas, je m'excuse pour l'audition, je n'ai rien capté comme question, parce que ici je vous capte difficilement, ici on se... nous avons de sérieux problèmes.
Merci. Merci beaucoup, mais ce que vous avez donné comme réponse, c'est exactement... Oui, exactement. Votre réponse est venue compléter ou bien soit donner suite à la préoccupation. Merci beaucoup, Pauline Odiane, député national. Vous êtes à Isiro avec beaucoup de difficultés de communication, mais vous avez quand même insisté sur la bonne foi et le fait que les contacts doivent se faire au niveau de chef d'État. Mais la démarche de l'Église, exactement, peut arriver à amener cette conscience auprès des chefs d'État pour que les discussions se fassent au-dessus. Mais il y en a aussi qui souhaiteraient voir la RDC dans cet état d'insécurité pour profiter de cela et résoudre et surtout la question des pillages des ressources naturelles. Merci beaucoup. En dépit des difficultés, on vous a quand même suivi. Guillaume, vous êtes à Mahagi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Cathy.
On vous écoute.
Je remercie beaucoup l'intervention de notre auditeur, l'honorable, en parler au dernier depuis Giron. Dernier Pierrot, si on parle français bien. Le problème à l'Est, c'est la question de bonne foi. L'honorable venait de dire tout de suite. Je rentre sur le débat. Je ne peux que féliciter la démarche des évêques. C'est une bonne démarche. Car avant de couper un arbre, il faut d'abord commencer par faire racine. Tu vois que l'Odette est une opposition gandaise. Donc les Congolais sont en train de travailler à la place des Ougandais. Comme nous travaillons à la place des Burundais avec le FNL. En tout cas, on ne peut pas comprendre comment c'est-il que les gardes sont toujours là. À qui profite ceux qui sont en train de faire comme des crimes? C'est pire. Réellement, le président ougandais Moussa qui est encore vivant, qui a réellement les soucis de la paix, qui a réellement vous pensez. Parce que toute guerre termine par une négociation. On négocie même avec les talibans, avec les Daesh, on négocie avec tout le monde. Moi, je vois que on a beaucoup souffert. On ne comprend pas. Si combien ça coûte seulement la protection d'un kilomètre d'un territoire de l'Est en matière d'argent, en matière de... On ne comprend pas. Il n'y a pas une volonté. Moi, je vois qu'il n'y a pas une personne dans l'Est. On ne peut pas comprendre. Le discours de nos événements, je peux dire que là, c'est un discours officiel. On ne peut pas croire à des choses comme ça. On a peut-être dit que l'Est du Congo est devenu comme un camion ferme qui pointe partout. Donc, mon frère, on a été...
Alors, pour vous, Guillaume, on a aussi des petits soucis avec vous dans la région, avec la communication. Pour vous, vous dites que c'est une question de bonne foi. Vous ne pouvez pas comprendre comment... vous ne croyez pas à ces discours du président ougandais de demander aux confessions religieuses de la région de Grand Lac de s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité alors que les ADF ne sont pas de rebelles congolais, sont de rebelles ougandais. La question pouvait être résolue facilement, que ce soit par lui-même, que ce soit aussi pour les FNL avec les Burundi, les FDLR avec les Rwanda. C'est une question de bonne foi. Si ces pays veulent bien et que ces rebelles discutent, retournent dans leur pays et que la paix puisse revenir à l'Est, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas possible que la RDC fasse le travail à leur place. Floribert, vous gardez la ligne, vous êtes à Lubumbashi. Nous revenons à vous, Étienne Viviane Kalonji. Vous avez suivi ce que disait tout à l'heure notre compatriote Paulin Wodjan, député. Il a insisté sur la question de la bonne foi au sommet de l'État, que ce soit au Rwanda, au Burundi, que ce soit en Ouganda. Mais est-ce qu'on a l'impression de cette bonne foi vraiment, qu'on a la volonté de mettre fin à cette question d'insécurité des groupes rebelles étrangers qui opèrent sur les sols congolais à l'est du pays?
À un analyste averti sur ce qui s'est passé au Congo, dans la guerre du Congo entre l'Ouganda et le Rwanda, à Kisangani, il y a lieu de se redire effectivement que la question de la bonne foi vaut son pesant d'or. Il faut qu'on se réalise que pendant que nous perdons les nôtres qui sont zigouillés chaque jour, ces pays voisins sont en train de connaître une émergence dans l'économie de leur pays. Et que toutes nos matières premières qui sont exportées sur nos territoires trouvent leur marché dans ces pays voisins. Encore faut-il savoir que un mouvement rebelle ne peut être pris en considération dans un pays que s'il continue à inquiéter les intérêts de ce pays. Mais lorsque nous réalisons que les ADF, au lieu d'inquiéter le gouvernement ougandais, les ADF viennent inquiéter le gouvernement congolais et les citoyens congolais. Alors demandez au président Museveni de se préoccuper de cette question, alors qu'il se retrouve que lui, pendant des années, les ADF ne l'inquiètent pas totalement, ils ne mettent pas en péril son pouvoir. Raison pour laquelle je commençais à anticiper l'approche politique pour dire qu'avec l'avènement de l'alternance actuelle de son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui incarne un élan d'espoir dans le chef des citoyens congolais, il y a lieu que nous, citoyens congolais, puissions nous lever comme un seul homme, de pouvoir faire ses plaidoyers en soutenant les actions des confessions religieuses pour que notre gouvernement puisse prendre ses problèmes à bras le corps. Que ça soit une des priorités pour lui de remettre la paix dans ce pays en organisant notre armée. Nous avons une armée qui est l'avènement du brassage avec la guerre de 98 au sorti des négociations de Sanctity. Il y a lieu ici maintenant qu'un travail de fond soit déjà ici envisagé pour que le commandement dans notre armée soit réellement un problème sérieux et que nous ayons une armée dissuasive qu'une armée qui ne fait que subir, n'est-ce pas, les revers auprès de ces différents groupes armés qui pullulent à l'est de notre pays. Voilà pourquoi nous disons, au-delà de cette prise de conscience que les confessions religieuses peuvent faire dans un travail de vulgarisation dans le chef de peuple de ces coins-là, que ce soit au Congo ou en Ouganda, pour que ces peuples accompagnent les structures légales à pouvoir rétablir la paix dans cette partie de l'Afrique, il y a lieu ici de croire que la bonne foi là, nous ne serons pas dans une église pour attendre que le président Museveni redevienne un garçon de cœur à l'église afin qu'il puisse nous aider. Non, nous en tant que Congolais, nous devons nous assumer à demander à nos décideurs de nous sécuriser et nous-mêmes aussi à pouvoir interpeller les nôtres qui sont en intelligence avec ces forces nuisibles de cesser de faire ces choses parce que ceci ne fait que reculer notre pays.
Voilà. On revient à vous, Étienne Viviane Kalonji. On écoute les deux derniers auditeurs rapidement. On revient à vous pour chuter. Floribert, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. En une minute, hein, parce qu'on tend déjà vers la fin, vous avez eu l'occasion d'écouter les uns et les autres. Quel est votre point de vue, Floribert? Bonjour. Floribert, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis avec Floribert, Deo Gracia et Takananga. Deo Gracia, bonjour.
Bonjour, bonjour aussi à tous les invités.
On vous écoute.
Oui, d'emblée, je dis ceci. La démarche entreprise par, n'est-ce pas, la CENCO est le meilleur. Mais que moi, je souligne que ce soit comme un avertissement, n'est-ce pas, auprès du président, ou soit des Ougandais. Parce que jamais les rebelles ne peuvent jamais se convertir en chrétienté non plus. Ici, les rebelles exercent, n'est-ce pas, sur le territoire national. L'État, n'est-ce pas, a la puissance de garantir, n'est-ce pas, de sécuriser son territoire national en imposant sa domination et sa force. Parce que négocier, n'est-ce pas, avec les rebelles, c'est les reconnaître sur l'aspect international, c'est reconnaître, n'est-ce pas, leur aussi, leur place sur l'aspect international. Aussi longtemps que l'État ne peut jamais négocier avec les rebelles, rebelles, n'est-ce pas, l'État doit imposer sa force pour, n'est-ce pas, sécuriser son territoire. Cette démarche-là des évêques, que ce soit juste un avertissement pour, n'est-ce pas les États frontaliers, de savoir que non, voilà, la RDC veut prendre les choses en main. Le gouvernement national doit, n'est-ce pas, déployer les militaires, les équiper, n'est-ce pas, avec tous les matériels possibles, les motiver normalement, et ils vont s'imposer et les rebelles là vont partir. Merci. On ne négocie pas avec les gens pareils sur la scène internationale non plus.
Merci beaucoup, Deo Gracia. Vous estimez qu'il ne faut pas discuter, négocier avec eux. L'État doit s'imposer parce que ces rebelles ne vont pas se convertir aujourd'hui dans ces conditions. Il faut tout simplement utiliser son pouvoir. Je crois que Floribert de Lubumbashi, ça n'a pas été possible de pouvoir le récupérer. Floribert, vous êtes avec nous? Dommage. On revient à vous, Étienne Viviane Kalonji. On a suivi les uns et les autres, parce que là, on doit vraiment conclure cet échange. La question du dialogue interreligieux, l'implication, l'interconnexion, le rôle politique. Et comme notre ami disait tout à l'heure, l'État doit aussi imposer sa force, parce qu'il ne faut pas vouloir les convertir aujourd'hui, ces rebelles. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cet échange?
Oui, ce que nous pouvons retenir est que la démarche menée par les confessions religieuses est une démarche salutaire, parce qu'elle consiste à interpeller. C'est une étape que nous qualifions dans la résolution nationale des conflits comme étant une approche du dialogue, une approche d'interpellation. Mais cela doit se suivre avec une vulgarisation de la culture de la paix auprès des peuples de ces coins, afin que chacun d'entre eux puisse comprendre de ne plus recourir aux méthodes violentes pour présenter ses désidératas. Deuxièmement, l'État congolais est appelé à prendre ses responsabilités. Et nous attendons l'État à ce sujet-là pour qu'on puisse véritablement organiser nos forces armées afin de pouvoir rétablir cette paix, parce que cela entre en ligne de compte de leur mission traditionnelle qui consiste à sécuriser le territoire national. Et deuxièmement, nous devons aussi, nous, peuple congolais, cesser de rester observateurs vis-à-vis de ces situations macabres. Un mort à Beni, un mort à Nitouri et un mort de trop, ça doit interpeller le Congolais qui vit à l'ouest du pays. Voilà pourquoi les organisations non gouvernementales, les associations sans but lucratif doivent emboîter les pas aux confessions religieuses catholiques pour qu'ensemble on puisse éveiller la conscience nationale, prendre ces problèmes à bras le corps, harceler les oreilles des décideurs politiques pour que cette infamie qui se réalise dans la partie Est puisse cesser. Et qu'au quotidien, nous ne soyons pas ici en train de fêter dans des bistrots, voire comme si les brasseries devaient fermer leurs portes, et oubliant que nous sommes en train ici de perdre les nôtres parce que quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience de tout Congolais à privilégier le patriotisme qui consiste, n'est-ce pas, à être de cœur avec ceux qui perdent les leurs et aussi à se mobiliser pour que des solutions définitives soient prises dans cette partie de la République.
Oui, mais pour terminer, mais quand on a évoqué ADF comme un mouvement terroriste international, pensez-vous aujourd'hui que la communauté internationale est-elle assez impliquée pour aider la RDC, la sous-région, à mettre fin à cette crise dès lors que les ADF ont été considérés, reconnus comme un groupe terroriste sur le plan international?
Oui, la communauté internationale a sa part, parce que tout ce qui se réalise à l'Est, là-bas, avec l'exploitation illicite de nos richesses, cela contribue à long terme sur l'avènement de la révolution technologique avec des appareils. Nous voyons comment est-ce que les journalistes d'investigation ont monté des enquêtes pour prouver à suffisance que les minerais du sang qui existent dans notre pays permettent à ce que certaines multinationales puissent se taper de l'argent. C'est la raison pour laquelle notre diplomatie doit être très efficace pour convaincre la communauté internationale à s'impliquer, à envoyer une force multinationale dans ces points avec l'avènement des drones, pour chercher ici à dénicher tous ces groupes armés qui se cachent par-ci et là et à couper leurs sources d'approvisionnement en armes afin que cette question ici soit une question du monde. Mais lorsque nous sommes en train de rêver et qu'il n'y a pas une forte mobilisation collective des Congolais sur cet aspect des choses, la communauté internationale sera le sourd d'oreille.
Merci.
Raison pour laquelle nous devons nous lever comme un seul homme et puis commencer à faire des actions directes de rue pour sensibiliser les citoyens du monde à prendre ces problèmes à cœur et trouver des solutions aux idoines.
Merci beaucoup, Étienne Viviane Kalonji. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert en résolution pacifique des conflits. Merci d'avoir été avec nous. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux
aux auditeurs.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
C'est la fin de ce magazine qui a été mis en onde par Jean-Claude Siala. Marcel Ngombombala était à la réalisation. Et puis, Roy Lamézi, je vous l'ai présenté. L'émission d'aujourd'hui sera rediffusée demain, samedi à 11h05, heure de Kinshasa. Mais c'est aussi sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Merci et au revoir.